Intégral Tour, Christophe Cessieux.
De retour sur la ligne d'arrivée de cette 9e étape du Tour de France. Aujourd'hui, 2e grande étape de montagne, l'étape traditionnelle des Pyrénées qui a montré des choses. Évidemment, on va y revenir dans quelques instants en vous rappelant le résultat de cette 9e étape. Toute l'équipe est rassemblée à mes côtés. Lucho est déjà en train de faire son roadbook pour savoir à quelle heure il va arriver à l'hôtel, à quelle heure il pourra manger son sandwich. Aux alentours de minuit, a priori, mon cher Lucho.
Hein ? Ah ben non, t'es optimiste.
Puisqu'il y a un gros transfert. Alors les coureurs vont partir dans quelques minutes. Ils vont prendre l'avion direction Nantes. Et les suiveurs vont les suivre.
Allô, ici le sandwich sur l'autoroute. Si vous voyez une voiture RMC, arrêtez-vous.
Oui, non, mais il y a pas beaucoup de gens sur l'autoroute qui distribuent les sandwichs. Fred est également là, de retour. Cyril doit être là. Il était très énervé tout à l'heure, le druide.
Il rumine là.
Il rumine.
Il a mangé du gâteau à la broche.
Oh, bon, tout va bien. Fred, on va revenir sur cette 2e étape de montagne. C'est vrai que ce matin, on était au départ de cette étape un peu pessimiste. Hier, on a pris un gros coup sur la tête. On s'est dit le tour est joué, il ne va plus rien se passer. Ils vont terminer 1 et 2, nos amis Froome et Porte. Et puis aujourd'hui, eh bien, dans une première partie d'étape, en tous les cas, il s'est passé des choses qui nous ont fait espérer. Au résultat, c'est pas non plus la montagne accouche pas d'une souris, d'un gros rat, dirons-nous, cet après-midi.
J'espère que c'est pas Dan Martin, le vainqueur de l'étape que vous visez.
Mais on espérait après le début de l'étape qu'il se passe plus de choses que ça. Bon, on va s'en contenter, c'est déjà pas mal. On va rappeler la victoire de Martin et que le maillot jaune est toujours sur les épaules de Froome.
Et il est irlandais, il a 26 ans et effectivement il s'appelle Dan Martin, coureur de l'équipe Garmin Sharp qui, après sa victoire dans Liège-Bastogne-Liège au printemps dernier, après une victoire d'étape sur le Tour d'Espagne au sommet de la Covatilla, a explosé aux yeux du grand public français. Cette fois, Dan Martin a devancé ici sur la ligne d'arrivée dans la vallée à Bagnères-de-Bigorre après l'escalade de 5 cols. Il a devancé le Danois Jakob Fuglsang. Le groupe maillot jaune a terminé à 20 secondes, réglé par l'Espagnol Moreno, mais c'est un détail car il faut noter que dans ce groupe maillot jaune, Christopher Froome, qui avait pris le pouvoir hier à Aix-Trois-Domaines, a été esselé toute la journée. Il a passé une journée qui aurait pu s'avérer dramatique pour le classement général pour lui, mais finalement il a résisté, même s'il a été orphelin de ses équipiers de la Sky. Il a résisté aux nombreuses attaques, c'est vrai. Ces attaques sont surtout intervenues en début d'étape, à un moment surprise, mais finalement pas de casse pour Christopher Froome.
Alors on va derrière la ligne d'arrivée au protocole, oui, avec Pierre-Yves qui est aux côtés du patron, du Big Boss.
Exactement, Christian Prudhomme qui s'approche pour une sorte de bilan traditionnel. On a l'habitude au bout d'une semaine de vous retrouver, Christian. Hier, tout le monde avait un peu le moral dans les chaussettes en se disant le tour est terminé. Et puis aujourd'hui, une étape un peu folle. Ça vous a surpris également ?
Ça m'a surpris que la situation se décante aussi vite. Oui, c'est-à-dire que le peloton explose, ça m'a pas surpris, mais que un certain nombre de favoris et surtout tous les équipiers de Chris Froome soient lâchés dès les premiers kilomètres. Oui, honnêtement, j'ai été même stupéfait, je dois vous le dire. Ben, ça veut simplement dire que tout est encore possible. Il y a un leader qui est fort. Le coup de force de Froome à Aix-Trois-Domaines, il a été impressionnant. Il y a aucun doute là-dessus. Il a marqué de gros points, c'est une évidence. Il est en position de force, mais ça veut dire aussi que si les équipes se liguent et qu'il y a une tactique de harcèlement, tout est réellement possible. Je pense que la chaleur va jouer énormément. C'est-à-dire que des organismes qui, pendant 6 mois, avec un printemps pourri, avec de la neige, avec du froid, ont été habitués à certaines conditions, et puis d'un seul coup, de très grosses chaleurs, plusieurs jours consécutifs, ça va assurément marquer les organismes et ça peut conduire à de grosses surprises.
Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, à votre avis, pour Chris Froome, qui était tout seul?
Ben, il faut, c'est ce que je disais à l'instant, il faut qu'il y ait une tactique de harcèlement des autres équipes. Il y avait une surpuissance numérique de Movistar. Seul Quintana a attaqué 2 fois. Il faut qu'ils attaquent partout dès qu'ils en ont l'occasion. Faudrait pas qu'ils courent un petit peu à la T-Mobile des années perdues, avec une tactique qui est pas franchement la meilleure qui soit. Ils doivent le harceler, ils doivent attaquer tout le temps.
Il reste encore 3 grosses arrivées au sommet, et pas n'importe lesquelles, notamment la semaine prochaine, dimanche, le Ventoux, hein, déjà.
Oui, bien sûr. Une très très longue étape, la plus longue du Tour, 220 km plat et un final très différent par Bédouin, un final mythique du Tour de France, un 14 juillet, le dimanche. Froome avait dit à la présentation du Tour, oulala, cette étape-là, ça va être dur. Ben, donc on verra.
Vous avez parlé du 14 juillet, ça veut dire qu'on va parler France et Français. On les attend.
Oui, c'est la déception de ces 8 premiers jours. Ils ont beaucoup essayé. Ils ont très peu réussi. Il reste qu'un jour, il y a des satisfactions comme celle de Romain Bardet. Voir des jeunes, un jeune comme lui de 22 ans encore en tête dans une école de la journée devant tous les cadors, c'est bien, mais c'est vrai qu'au classement général ils sont loin et qu'on attendait mieux. Il leur reste 2 semaines, non pas pour reprendre une place parmi les meilleurs du classement général, ça va être vraiment compliqué. Il y a Jean-Christophe Perrault qui à mon sens peut faire quelque chose. Pour les autres, il faut jouer la victoire d'étape, il faut jouer le maillot à poids, il faut se montrer.
Prochain grand rendez-vous, c'est le contre-la-montre du Mont-Saint-Michel.
Oui, sans aucun doute. Alors là, c'est un chrono fait pour les rouleurs. Donc, l'addition pour les adversaires de Froome va certainement augmenter un peu. Après, ils sauront exactement combien de temps il faut qu'ils reprennent. Et ils auront vraiment des occasions, j'en suis certain, sur ce qu'on a vu aujourd'hui.
Un mot sur le fan après-midi que le président de la République, il soutient toujours le Tour de France, on l'a vu. Au-delà des sinistrés aujourd'hui qui avaient besoin d'être là, il y a une action symbolique également des coureurs aujourd'hui.
Oui, bien sûr, il y a un très beau geste des coureurs qui ont décidé de ne pas toucher leur prix et de remettre l'argent des gains aux sinistrés de Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. Et puis également d'offrir par équipe, chacune des 22 équipes, un maillot dédicacé, de les offrir et de les mettre aux enchères et que l'argent puisse également être donné aux sinistrés. On a traversé tout à l'heure Saint-Béat, qui est l'un des villages les plus touchés. J'ai pu saluer le maire que j'avais eu à plusieurs reprises les jours précédents, qui souhaitait absolument qu'on passe. Je lui ai dit dès le départ, mais nous, vous savez, si on peut passer, on passera évidemment. Et les Pyrénées font partie de la légende du Tour de France. Ce sont des gens qui aiment fondamentalement, viscéralement le Tour de France. Et la moindre des choses, c'était que le Tour passe bien chez eux, ce qu'on a fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous dévoiler le parcours de 2014, mais ils nous ont demandé, François Fortassin, sénateur des Hautes-Pyrénées, et Michel Pédule, président du Conseil Général, nous ont demandé de repasser par le Tourmalet l'année prochaine. Tourmalet qui est coupé en 10 parties aujourd'hui, il y a 10 morceaux, la route est arrachée, et bien sûr qu'on repassera par le Tourmalet l'année prochaine.
Le Président, pour terminer, vous avez parlé de quoi? De mondialisation, de dopage, de coureurs français?
On a beaucoup parlé des cols qu'on escaladait, des écarts entre les coureurs. Il était dans l'instant présent très intéressé par Bardet notamment, par le fait que des jeunes soient devant. Romain Bardet, vous le savez, a fait des études supérieures et il a eu ce double cursus à Chambéry. Il est originaire de Brioude, mais il a eu à Chambéry ce double cursus sport et études qu'il a mené à bien. C'est une tête bien faite et assurément aussi un gros potentiel physique, avec une vraie allure de grimpeur.
Vous êtes satisfait après cette première semaine?
Oui, parce que le grand départ a très bien lancé les choses. Les 3 jours encore ont été absolument splendides, paysage exceptionnel, avec un rendu immédiat à la télévision. La télévision magnifie le tour. 190 pays reprennent les images et les audiences sont les meilleures depuis 15 ans sur un départ de Tour de France, alors qu'il y a une concurrence exacerbée, évidemment bien plus importante qu'à l'époque. Donc il y a tout lieu d'être satisfait, en effet.
Merci beaucoup, Christian Prudhomme. Voilà pour un premier bilan. Après, 9 jours de course, exactement.
Voilà, plutôt satisfait le patron du Tour de France, même s'il l'a dit. Il est un peu déçu tout de même par les Français. On va s'y intéresser aux Français. Fred, on va rappeler qu'aujourd'hui, il y en a 2 ou 3 qui se sont montrés. Perrault, Bardet, Pierre Roland, qui est allé conforter son maillot de leader du classement de la montagne. Mmh. Mais pour les autres, c'est une nouvelle fois une déception, et notamment pour Thibaut Pinot, dont on va parler dans un instant. Thibaut Pinot qui a terminé à la ramasse aujourd'hui, plus de 25 minutes de retard.
Oui, Thibaut Pinot qui, après sa défaillance d'hier dans la descente, a cette fois été victime des assauts du début d'étape. Une course très nerveuse, un rythme effréné qui en a surpris plus d'un, dont effectivement Thibaut Pinot, vainqueur de l'étape de Porrentruy l'an passé, 10e du Tour de France il y a un an, et qui arrivait au départ de la Corse avec de grosses ambitions. Il avait déjà montré des limites techniques lors du dernier Tour de Suisse, en manquant une victoire d'étape qui semblait se dessiner. Lui qui était échappé dans une étape reine et qui avait craqué dans la descente avant l'arrivée dans la vallée, et bien cette fois il n'a même pas attendu la descente pour être décramponné. Thibaut Pinot qui doit vivre des heures douloureuses. Voici la vie d'un champion, la vie d'un coureur. Elle passe par des moments de gloire, comme c'était le cas l'an passé avec cette victoire à Porrentruy, et des moments douloureux dans lesquels on apprend. Thibaut Pinot qui est le Français noir du jour. Il y en a eu effectivement en pleine lumière aujourd'hui. On a entendu Christian Prudhomme parler de Romain Bardet, on l'a entendu parler de Pierre Roland également. Pierre Roland qui ce matin était à égalité de poids égalité de points au classement du meilleur grimpeur avec Christopher Froome et qui s'est glissé dans une échappée aujourd'hui au long cours. Il a raflé des points et clairement l'objectif pour le 8e du dernier Tour de France est désormais le classement du meilleur grimpeur. Hommage à Cyril Guimard qui il y a 4-5 jours
nous disait que de toute façon
c'était ça l'objectif. On rappelle la victoire de Dan Martin, l'Irlandais ici à Bagnères-de-Bigorre, devant son compagnon d'échappée, le Danois Jakob Fuglsang. Le groupe des favoris est arrivé à 20 secondes seulement et on l'a dit, Christopher Froome sauve son maillot jaune alors qu'il a été esselé toute la journée. Le grand battu du jour, outre Thibaut Pinot, s'appelle Richie Porte, lui qui avait créé la sensation, voire de drôles de réactions parmi les suiveurs hier en prenant la deuxième place à 50 secondes derrière son leader Christopher Froome. Il a passé la marche arrière aujourd'hui dès le deuxième col de la journée, le col de Manté, 18 minutes lâchées par le coureur australien de l'équipe Sky. Les Sky ont tous pris l'eau aujourd'hui, excepté Christopher Froome qui reste en jaune. Maillot à poids sur les épaules de Pierre Roland qui a lâché lui 8 minutes sur la ligne d'arrivée. Maillot blanc sur celle du grimpeur colombien Nairo Quintana. Maillot vert toujours évidemment pour le Slovaque Peter Sagan qui a rallié l'arrivée dans le Gruppetto près d'une demi-heure après la victoire donc de ce diable de Dan Martin, coureur irlandais au profil, au gabarit atypique. Ça bouge de partout, il dodeline sans cesse de la tête, mais il est diablement efficace. Il remporte à 26 ans l'une de ses plus grandes victoires, puisqu'on le rappelle, il a déjà remporté une étape de montagne sur la Vuelta et surtout la doyenne des classiques au printemps dernier, Liège-Bastogne-Liège.
Messieurs, avant de revenir ici dans quelques instants pour analyser tout ça et pour laisser à Cyril le temps de finir sa petite glace, on va repartir pour Wimbledon, finale du tournoi masculin entre Andy Murray et Novak Djokovic. Ça chauffe Eric Salio.
Ça chauffe, oui, puisqu'Andy Murray va servir pour mener 2-0, Christophe. Et ça, c'était pas vraiment prévu, surtout si tu me suivais depuis une demi-heure. Il y avait 4-1 Djokovic dans cette deuxième manche et il a perdu le fil petit à petit. Et puis, il y a quelques minutes, là, on l'a vu fou furieux sur une décision d'arbitrage. Il a, selon lui, une balle de Murray était sortie. Alors, tu vas me dire, pourquoi n'a-t-il pas demandé de Hokai? Eh, parce qu'il a plus de challenge. Alors, donc, il a déversé sa fureur vers l'arbitre Mohamed Alayani en disant, en lui mettant l'impression du genre, tu aurais peut-être pu prendre tes responsabilités, mais Mohamed Alayani n'a pas bougé d'un cil et en plus il avait raison, enfin plus exactement c'est son juge de ligne qui avait raison. Donc la situation se complique très sérieusement pour Djokovic. En plus la foule s'est réveillée un peu comme moi, donc 6-4, 5-4, service à suivre pour Murray.
Et on va le suivre avec toi peut-être parce que c'est important, ça lui permettrait de mener 2 manches à rien face à Djokovic et donc de se rapprocher de son but ultime, à savoir devenir enfin le successeur de Fred Perry, dernier vainqueur britannique de Wimbledon. On n'était pas nés loin de là, mais Amérique.
Toi, je sais pas.
Ça, alors là, tu me le paieras.
36, oui, c'était en 36.
1936, ouais. Oui. L'année de naissance de mon papa.
On entend peut-être l'ambiance là, ça monte parce que s'il mène 2-7-0, Murray prendra une option très intéressante, même si ce sera pas fini. Et j'ai consulté mes archives, la dernière fois qu'un vainqueur de Wimbledon s'impose après avoir mené 2-7-0, c'était Henri Cochet. Donc il y aurait du boulot pour Novak Djokovic en 27.
Très bien, le service de Murray c'est maintenant ?
Ça va venir, oui. 5-4, ça va venir. C'est parti. Là on sent que le public est complètement derrière l'Écossais. Ça peut être un moment crucial de cette finale qui a du mal à démarrer. Vous l'avez peut-être senti dans mes commentaires, mais là je pense que ça va monter de plusieurs degrés, parce que si Murray se détache de 7-0, il faudra que Djoko soit vraiment très très fort dans sa tête pour remonter à un tel handicap. C'est parti, donc premier point de ce 10e jeu. On sent que Djoko veut marquer oui, mais là il commence par une faute, un revers croisé dans le couloir. 15-0, Andy Murray qui est en train de tenir ce deuxième set alors qu'il était pourtant largué dans le début de cette manche. 4-1, il a même dû sauver des balles de 5 jeux à 3 il y a quelques minutes. Donc c'est un scénario auquel Novak Djokovic n'était pas préparé du tout et il est en train de perdre un petit peu les pédales, le numéro mondial. Bonne deuxième, c'est un service gagnant là, service gagnant à 126 miles, donc plus de 100 km/h pour Andy Murray. 30-0, l'Écossais est complètement survolté depuis quelques minutes. 30-0, à 2 points de se détacher, 2-0, à 2 points de remporter le titre de ses rêves, un peu comme Marion Bartoli hier, même si évidemment ça n'aurait pas la même la même ampleur. 30-0, 5-4, 30-0, Andy Murray qui a mis la casquette. Hein, tout comme Novak Djokovic, parce qu'il fait très très chaud ici à Wimbledon. Et on sait que Novak Djokovic, dans son début de carrière, souffrait pas mal de la chaleur. Et peut-être qu'il est un petit peu rattrapé. En plus, il y a eu la fatigue d'une demi-finale très très longue, très intense. Voilà, encore une énorme erreur de Novak Djokovic sur une petite deuxième balle. 3 balles de 7 pour Andy Murray. 40-0 sur sa mise en jeu. Il est en train de perdre des pédales, Novak Djokovic. Et on l'avait vraiment pas senti venir parce que il semblait avoir réagi après la perte du premier set. 4-1, tout allait bien, il était sur les rails. Et puis tout s'est désagrégé en très peu de temps. En très peu de temps, il a commis une double faute qui a permis à Murray de débreaker. Et derrière, bah, ça va de mal en pis pour le numéro 1 mondial. Grosse première, un ace. Le stade explose. 2-7-0 pour Andy Murray. 6-4, 6-4, il n'y a rien à dire.
Rien à dire. Et Andy Murray qui se rapproche de son but ultime, devenir enfin vainqueur de ce tournoi de Wimbledon. À tout à l'heure, Eric, pour la suite de cette finale avec la troisième manche qui va suivre dans quelques minutes. 17h24, nous revenons dans quelques instants sur la ligne d'arrivée de la 9e étape du Tour de France, remportée par l'Irlandais Martin. Chris Froome reste en jaune ce soir avant le transfert vers Saint-Nazaire. Je suis complètement cramé.
RMC Intégral Tour.
L'Intégral Tour au terme de la 9e étape du Tour de France. Les Pyrénées sont passées pour les coureurs du peloton. On place désormais à la plaine. Ils vont rejoindre ce soir la Bretagne. La Bretagne, Cyril. La Bretagne, ça vous gagne. Avec Saint-Nazaire, avec Nantes, avec ensuite une petite étape à Saint-Malo. La terre de cyclisme qu'est la Bretagne va accueillir le Tour de France. Et toi, tu vas pouvoir repasser par la maison. Ça fait du bien, ça. Hein.
Oui, mais peu de temps. Beaucoup trop peu de temps.
Eh oui, très bien. Cyril est avec nous, Luc Leblanc également avec nous, qui lui aussi va faire un petit passage au stand ce soir.
On passe à côté du Limousin, quoi. Pour
voilà, on passe pas très loin.
Pas très loin.
Fred Adam,
on va faire la vidange quand même.
Voilà, faire la vidange, refaire la tuyauterie, et puis on est reparti pour 15 jours de Tour de France. On rappelle donc la victoire de Dan Martin, Fred, et le maillot jaune toujours sur les épaules de Chris Froome. Chris Froome, qu'on va écouter. Tiens, tout de suite. Il était tout à l'heure au micro de Pierre-Yves Leroux, le maillot jaune qui a souffert aujourd'hui, hein, qui s'est fait attaquer, harceler de toutes parts, en tous les cas en début d'étape, et qui ensuite a réussi à répondre à toutes ces attaques. Chris Froome qui a vécu quand même, il va le dire, une journée compliquée.
Chris Froome qui s'approche, Chris avec son beau maillot jaune. Chris, est-ce que vous avez eu peur aujourd'hui? C'était une étape un peu folle.
C'était une étape très dure aujourd'hui, et oui, j'avais peur quand j'étais d'avant toute seule. Mais Movistar, aujourd'hui, ils ont fait une très bonne étape aujourd'hui avec 7 coureurs d'avant. Pour eux, ils ont démontré qu'ils ont une équipe très forte ici.
Ils vous ont presque aidé même à la fin. Ils auraient peut-être dû vous attaquer un peu plus.
Ils ont m'attaqué beaucoup de fois, mais oui, ça c'est la course. C'est difficile à suivre.
Vous ne sentez pas un petit peu seul aujourd'hui dans votre équipe?
Oui, j'ai été seul, tout seul.
Vous avez encore peur? Alors, évidemment, tout ce qui reste n'est pas encore gagné, hein. C'est loin. Hein.
Oui, je suis content de rester en jaune ce soir parce qu'une étape comme ça aujourd'hui, c'est facile de perdre beaucoup de temps.
Le repos va faire du bien?
Oui, demain on a un jour de repos et j'espère qu'avec ça on va récupérer mieux et retourner mardi avec plus jambes.
Merci beaucoup, Chris Froome. Avec son maillot jaune, on sent qu'il a eu peur hein, aujourd'hui.
Ah ouais, il a eu peur, on l'a bien compris dans ses propos. Cyril, est-ce qu'il a eu raison d'avoir peur? Est-ce qu'il a vraiment eu peur, Chris Froome, aujourd'hui?
Alors, c'est la question que l'on peut se poser et que moi je me pose pas, hein, j'ai la réponse.
Il a eu peur
un petit peu entre le col de Monté et le col suivant, le col de Persourde, parce que là il y a eu quelques mouvements et c'est toujours là où c'est le plus dangereux dans une étape de montagne. C'est pas la montagne en tant que telle quand vous êtes un petit peu isolé, c'est les parties plates. Et j'ai toujours dit que les échappés partaient là et que c'était là où il fallait être très vigilant. Il l'a été parce qu'il a pris tout de suite l'option de rester sur Valverde qui était donc troisième et donc deuxième puisque Richie Porte n'était plus là. Donc il s'est calé sur le deuxième virtuel du maillot du classement général et il a attendu. Et à partir de ce moment-là, il y a eu quelques mouvements, mais finalement c'est Contador qui s'est trouvé piégé, mais pas lui. Et ensuite, Richie Porte n'étant pas là, il n'a plus été attaqué de toute toute la fin de l'île. Il y a les trois derniers cols, il n'a jamais été attaqué. Il y a eu quelques banderilles de Quintana, mais qui n'avaient absolument rien à voir avec la réalité de la course, où il aurait fallu que Valverde contre, ou Rui Costa.
Valverde, on ne l'a jamais vu à l'attaque du jour, hein. Ni Contador d'ailleurs. Hein.
Non mais attendez, ils sont six.
Dans la vallée, il a attaqué Valverde en compagnie de son équipier Ruben Plaza notamment.
Oui, et là, il a répondu systématiquement, Contador. Contador était... Froome était systématiquement sur le deuxième du classement général. Il n'avait plus d'équipier, donc il a fait prisonnier Valverde. Et à la sortie, qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe Movistar est devenue l'équipe Sky, puisqu'elle a emmené jusqu'à l'arrivée. Ils n'ont même pas été capables d'aller faire la gagne de l'étape.
Froome admirable dans sa gestion de la situation de crise, car c'en était une. Il a su pointer les dossards menaçants. Il n'a pas besoin de regarder les dossards, d'ailleurs, ils se connaissent par cœur. Mais il a su quel mouvement accompagner et quel mouvement laisser partir, notamment dans le final, quand les seconds couteaux Dan Martin et Jakob Fuglsang s'en sont allés. Ça ne lui a posé aucun problème. Lui, ce qu'il contrôlait, c'était Valverde, c'était Contador, et il se préoccupait de ses coéquipiers Sky totalement à la dérive aujourd'hui, sans pour autant paniquer pour son compte personnel.
Alors, évidemment, l'un des grands enseignements du jour, c'est que finalement, on n'a pas besoin d'équipiers quand on est un grand leader, un grand grimpeur ou un grand rouleur, Lucho, pour gagner le Tour de France.
Aujourd'hui, sachant qu'il en restait qu'un, il n'y avait pas besoin d'équipier. Mais comme le disait Cyril tout à l'heure, il aurait bien fallu que Froome ait des équipiers si la Movistar avait attaqué plus de bonheur. C'est-à-dire 2-3 cols avant la Hourquette, ce qui ne s'est pas passé. Là, ça aurait compliqué les choses pour.
C'est-à-dire qu'il aurait été obligé de combler tous les trous.
Il aurait été obligé de lever son derrière et d'aller chercher tous les coups. Quintana, Valverde, c'est les deux seuls qui étaient dangereux pour lui au classement général. Bon, après, c'est vrai que il y a les Hollandais, là, comment ça s'appelle, Mollema, c'est ça?
Mollema,
qui est quand même placé au classement général, qui aurait pu éventuellement aussi en mettre une, parce que de toute façon, à un moment donné, Froome ne peut pas aller chercher tout le monde. Voilà. Mais encore une fois, quand on regarde les leaders, Quintana, Valverde, plus 5 autres équipiers, je ne comprends pas la situation de cette équipe, l'organisation de cette équipe, et que font les directeurs sportifs avec les oreillers derrière,
quoi. Eh oui, à quoi servent les oreillers?
À l'époque, j'aurais eu Cyril, je peux vous dire que c'était attaquer de suite, quoi, hein. C'était pas attendre le dernier. Hein.
Alors, Georges Quirino nous rejoint, le sosie de notre ami Quintana, qu'il est allé rencontrer.
Non, j'ai vu les Valverde. Cours de la formation Movistar
ouais.
Alejandro Valverde, juste après la ligne, qui nous expliquait qu'aujourd'hui, il n'y avait rien à faire contre Christopher Froome, qu'il était trop fort et qu'il était impossible de le décramponner. Discussion également avec Eusebio Unzué, qui est le manager de cette équipe Movistar, qui nous expliquait aussi qu'il n'y avait pas d'occasion au final pour isoler totalement Christopher Froome, en tout cas gagner du temps sur lui dans la dernière ascension de la Hourquette notamment. Ils se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient pas à le lâcher. Ce qui les intéressait davantage dans le final, c'était de gagner du temps sur Richie Porte notamment, et sur ses anciens coéquipiers de la formation Sky qui étaient derrière. Alors ils ont pris conscience que du coup il y avait peut-être des occasions pour l'avenir, mais bon, là c'est une occasion aujourd'hui qui est peut-être manquée.
Oui, il ne faut pas rater les occasions sur la route.
Également chez Saxo Bank et chez Philippe Mauduit, qui donc dirige Alberto Contador, qui lui avait un petit peu de mal aujourd'hui physiquement, il ne pouvait pas aller au-delà, c'est ce qu'il nous a expliqué le pistolero. On se dit que ça montre peut-être que cette équipe Sky n'est pas aussi forte qu'on le pensait, et que s'il y a eu occasion aujourd'hui, il y en aura peut-être d'autres dans les Alpes. Mais avant, il y a un contre-la-montre.
Bien sûr, on ne récupère jamais les occasions perdues, hein, sur le Tour de France.
Oui, ce qui est amusant, c'est quand on écoute les différents responsables d'équipe ou les coureurs eux-mêmes, ils ont toujours une vision de la course qui n'est pas obligatoirement celle que nous, on voit dans la réalité. En fait, ils ont leur vérité et leur certitude. La seule chose, c'est qu'il faut se rappeler que sur des grands tours, et même en dehors, eh bien, les occasions perdues, les occasions ratées ne se reproduisent plus. Et moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il a gagné le tour, Froome. Parce que vous allez avoir le contre-la-montre du Mont-Saint-Michel. Et là vous allez avoir 2 ou 3 minutes
de retard.
Ensuite, vous avez quoi? La montée sèche du Ventoux, où là, ils vont prendre une punition. Et le lendemain, vous avez une
petite... Qui va prendre une punition? Les adversaires de Froome.
Ils vont la prendre au Mont-Saint-Michel. Ils vont la prendre dans le Ventoux. Et ensuite, il y a le contre-la-montre immédiatement derrière, enfin 2 jours après, de Embrun. Donc si vous prenez Embrun, le Mont-Saint-Michel, le Ventoux, ça fait 5 minutes. Le tour est fini. Il est fini ce soir, il l'était pas hier soir. Aujourd'hui, il y avait des occasions formidables. Quitte à sacrifier des leaders. Quitte à sacrifier des leaders, quitte à sacrifier Valverde ou Quintana ou Rui Costa. Mais il fallait mettre en route.
Georges ?
Oui, juste pour parler de l'ambiance chez les Sky, évidemment, puisque on peut imaginer que tu disais,
on se frise la moustache,
direct, qu'ils ont serré les fesses dans le final. Il y avait évidemment beaucoup de monde autour du manager Dave Brailsford qui a eu plutôt un grand sourire. Il a le sentiment certainement que son équipe s'est bien sauvée. Il n'a donné aucune explication parce qu'il n'en avait pas lui-même sur la défaillance de Richie Porte aujourd'hui. Mais en tous les cas, il a été largement rassuré par Christopher Froome qui a montré à ses adversaires que même tout seul, il pouvait.
Rassuré par la Movistar.
Il a également beaucoup parlé des Garmin également qui ont travaillé.
Non, eux, ils ont aujourd'hui attaqué les Garmin. Voilà. Les Garmin, c'est eux qui ont tout fait sauter.
Exactement, mais. Il n'y avait pas non plus une grande inquiétude dans la formation Sky. Par le visage montré aujourd'hui.
Sans cynisme aucun de la part de Dave Brailsford, on a, c'est vrai, chez Sky, un schéma qui pourrait ressembler dans la course à celui de l'US Postal des grandes années ou de Discovery, mais dans l'attitude, on a vraiment une approche bien différente de l'ère Lance Armstrong.
Bah, c'est-à-dire qu'ils savent où ils vont. On a l'impression que tout est calculé. C'est-à-dire que là, ils disent aujourd'hui c'est un jour sans, c'est le cyclisme.
Ouais.
On montre qu'on est humain.
Sans être hautain.
Voilà. On montre qu'on est humain. Voilà. On montre que voilà, tout peut arriver dans le vélo. Mais bien évidemment, ils disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas à l'abri d'autres défaillances à l'avenir. Mais ce qui est arrivé aujourd'hui, on a le sentiment de, parce que nous a dit Dave Brailsford, il n'y a pas beaucoup de chances que ça arrive beaucoup plus dans les prochaines étapes.
Oui.
Voilà. Ils vont faire attention.
Ils vont refaire.
Alors après, ils craignent aussi potentiellement qu'il y ait des alliances dans les autres équipes, et notamment les Espagnols, les Movistar et les Saxo Bank avec Contador, qui pourraient peut-être tous s'allier contre eux. On en a parlé également avec Philippe Mauduit. Il a dit pour l'instant, c'est pas l'actualité. C'est la course qui montrera si on aura besoin de faire des alliances.
Les Espagnols sont très solidaires. Ça n'existe pas, ça. Oui, c'est ça. Ouais.
Non,
Contador
non.
Ils l'ont jamais montré sur la route du Tour. Hein. Ça,
dans la vallée, Valverde et ses équipiers ont attaqué pour eux, et quand ils ont vu que Contador était en difficulté, ils s'en sont régalés et ils ont insisté en allant plus vite encore.
Guillaume nous appelle au 32-16. Guillaume, jeune supporter du cyclisme et du Tour de France. Salut Guillaume.
Bonsoir l'équipe. Tout d'abord, je voulais déjà vous dire un grand bravo, parce que les directs ou même les débats, vous êtes super les gars.
Merci Guillaume, merci. Ça fait plaisir.
Voilà, donc moi je voulais un peu réagir pour nos petits franchis. Je sais pas trop ce qui se passe. On attendait beaucoup que ça soit de Roland ou de Pinot. Pierre Roland, on a clairement vu son manque de tactique hier soir. Personnellement, je comprends absolument pas pourquoi il attaque là dans le col d'HC, et Pinot, j'ai l'impression qu'il a un mental complètement catastrophique, ce jeune homme. Et puis bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais Jean-Christophe Perrault, je ne vois pas du tout intégrer le top 10. Hein. Il montre quand même ses limites en montagne. Il est absolument pas capable d'attaquer les meilleurs. Heureusement que pour lui, il y aura le contrôle à montre d'emprunt Georges, je crois. Mais sinon, niveau français, cette année, on sera vraiment pas super, quoi.
Ouais.
Voilà, Guillaume
boum,
qui va quitter la France dès qu'il aura ses diplômes. Hein. Il fera partie des brillants jeunes Français qui n'hésiteront pas à s'exiler.
J'espérais beaucoup, malheureusement.
Et Pierre Roland, il avait des raisons d'attaquer tout au long de la journée. Son objectif est désormais.
Non, aujourd'hui, mais il parlait d'hier.
Ouais, hier surtout.
Oui, ouais. Le même objectif, les points du grimpeur, oui, dans le corps de
panier. Il ne faut pas avoir de discours à ce moment-là.
On est bien d'accord. Quant à Jean-Christophe Perrault, c'est un très bon rouleur.
Il va venir dans le top 10.
C'est un très bon rouleur, donc il a toutes les chances d'intégrer le top 10. On en reparle dans deux semaines, bien sûr, sur les Champs-Élysées. Mais c'est un ancien.
9e il y a deux ans. Hein.
Un ancien champion de France du contre-la-montre, lorsqu'il était encore amateur, qu'il avait damé le pion, notamment à Sylvain Chavanel. Dans trois jours, c'est un contre-la-montre vers le Mont-Saint-Michel. Et ensuite, il aura droit au Ventoux, aux Alpes. Et effectivement, ce contre-la-montre entre Embrun et Chorges, qui devrait lui convenir, il a eu l'occasion de le repérer. Et
Cyril, on a évoqué tout à l'heure le cas de Thibaut Pinot. On n'a pas eu ta réaction à ce qui s'est passé une nouvelle fois aujourd'hui pour Thibaut, dont nous parlait Guillaume il y a quelques instants. Il est à la rue, le pauvre, malheureusement. Il a pris un coup sur la tête, il n'y est plus du tout.
La performance qu'il fait aujourd'hui, ou l'absence de performance qu'il fait aujourd'hui, est tout à fait logique par rapport à ce qui s'est s'est passé hier. Vous partez dans le Tour pour aller faire un top 10, voire un top 5, et la première descente, vous vous faites éjecter, et là, c'est de la faute de personne. C'est lui qui est complètement inhibé dans les descentes de col, qui, dès qu'il est à 60 à l'heure, met les mains sur les freins. Alors, est-ce que ce sera possible de modifier ce type de blocage? Certains coureurs ont réussi à passer. J'ai presque même envie de dire, même Bernard Hinault, tout début de sa carrière, n'était pas un grand descendeur, sauf qu'il n'avait pas peur, quoi. Donc, techniquement, il faisait quelques fautes de trajectoire. Il entrait quelquefois un peu trop vite sur le point de corde. Mais il n'avait pas peur, d'ailleurs. Ce qui fait que dans le Dauphiné, il avait plongé dans le ravin. Mais dans la mesure où il était guerrier, où il avait envie de gagner, eh bien, il a progressivement progressé, surtout sur surtout sur l'attaque des trajectoires. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouviez plus le distancer dans une descente. Donc c'est vrai que Thibaut, aujourd'hui, il va falloir qu'il se restructure, qu'il retravaille au niveau de la descente. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut le laisser tranquille. Faut plus l'agresser, parce que on a mis une telle pression. Quand je dis on, pronom indéfini, je veux dire l'ensemble des médias, le public, ses supporters. L'an dernier, il part dans un Tour où il est jeune, voire trop jeune. Il va gagner une étape. Il devient un petit peu la coqueluche du cyclisme français, et il se retrouve avec une pression qu'il n'est peut-être pas prêt à gérer. Moyennant quoi, la descente d'hier va littéralement le tuer sur ce Tour de France.
Et la devise que Luc Leblanc s'est fait tatouer sous le biceps, la devise du druide, on ne perd jamais de temps à attendre, se vérifie peut-être cette année. Cyril disait l'an passé qu'il était trop tôt pour lancer Thibaut Pinot dans le grand bain. Peut-être que la pression qui est tombée sur le coureur cette année est le fruit de ce choix de l'an passé.
Ce choix qu'il a provoqué lui-même. Parce que Marc Madiot n'avait pas très envie de le mettre, voire pas envie du tout, mais il avait une telle envie de faire le Tour. Et puis, quand on gagne, on a toujours raison.
Voilà, et puis il y a une autre devise qui dit tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Hein, donc,
pas dans ce domaine-là.
Pas dans ce domaine-là, non, d'accord. Pas. Bon, très bien. En tous les cas, il a quand même remporté une étape. Il a quand même singulièrement amélioré son compte en banque. Il est aujourd'hui leader. Bon, effectivement, il passe à côté de ce Tour de France.
Dans tous les sports, le plus dur, c'est de confirmer.
Exactement. Merci en tous les cas à Guillaume d'être venu au 32-16 nous parler de sa déception avec les Français. 17h43, on repart pour Wimbledon, la finale du tournoi masculin entre Andy Murray, Novak Djokovic. Andy Murray, Eric Salio qui mène 2-7-0 face à Djoko.
2-7-0, 6-4, 7-5 et non pas 6-4 comme je l'avais dit tout à l'heure. Là ça commence à prendre forme, d'autant qu'Andy Murray, Christophe, a le break dans cette troisième manche. Novak Djokovic qui est vraiment en dessous de tout, j'exagère, mais il n'est pas à son meilleur. Il n'arrive pas à exprimer son jeu sur l'herbe de Wimbledon, et Andy Murray qui est très opportuniste sans être forcément très brillant, mais il gagne les points qu'il faut. Et Andy Murray, donc, s'il tient le coup sur le plan mental, sur le plan de l'émotion, eh bien, il devrait très bientôt se retrouver à servir pour le gain d'un titre à Wimbledon, même si la route, je ne cesse de le répéter, est encore longue. Donc, deux manches à 0, 6-4, 7-5, 2-1 pour l'Écossais. Et attention à la réaction de Djokovic, là, 0-30, le numéro 1 mondial qui veut défendre sa peau jusqu'au bout, et on l'en sait capable.
Très bien Eric, 17h44, on se retrouve dans quelques instants, toujours en direct de Bagnères-de-Bigorre, au soir de la deuxième étape des Pyrénées, remportée par Dan Martin. Chris Froome est toujours et plus que jamais en jaune.
Intégral Tour, Christophe Sessieux.
17h47, vous êtes sur RMC, une après-midi exceptionnelle de sport. Vous l'avez vécu sur notre antenne, uniquement sur notre antenne. Nous sommes les seuls à vous proposer autant de beaux événements sportifs. Il y a eu le Grand Prix d'Allemagne avec la victoire de Sébastien Vettel qui s'est imposé devant Raikkonen et Romain Grosjean. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Virginie Fulpin et avec tous les experts. Il y a eu évidemment cette 9e étape du Tour de France, remportée par Dan Martin. Chris Froome est ce soir toujours en jaune. Et puis il y a la finale de Wimbledon dans le tournoi masculin, finale de rêve entre Andy Murray, Novak Djokovic. Murray tout près de décrocher le Graal que toute une île, que tout un royaume attend, Eric Salio.
Eric Murray vient de perdre le bénéfice du break d'avance. de partout dans cette troisième manche, alors que Murray semblait vraiment se diriger sur une voie royale. Il y avait le tapis rouge qui était déroulé, il y avait 2-7-0, 2-0 avec un Djokovic qui était aux abois, et là Djokovic depuis 3-4 minutes s'est fait violence, il est allé chercher les points et à l'instant eh bien il s'est arraché pour aller chercher l'amorti, et Murray pour une fois était maladroit. C'est rare parce qu'il a une bonne main, mais il a réussi, il a trouvé le moyen de mettre une petite volée dans le couloir, et donc c'est un coup de froid pour le center court. 2-7-0 Murray, mais deux jeux partout, tout est à refaire dans cette troisième manche.
Tout est à refaire dans cette deuxième manche, ça peut durer très longtemps cette finale, entre, on sait qu'entre les deux hommes ça habituellement ça va très loin. Merci Eric, on te retrouve tout à l'heure. On reviendra également tout à l'heure à partir de 18h sur le succès de Marion Bartoli qui s'est imposé hier, vous le savez, elle est entrée dans la légende de Wimbledon. Il est peut-être en train d'entrer dans la légende du Tour de France. C'est Chris Froome donc qui a conservé ce soir son maillot jaune de leader de ce tour après une étape où on a quand même vu de très belles choses, notamment en début de journée. On va récapituler les classements, les résultats et s'intéresser à la journée de demain. C'est une journée de repos, donc c'est une journée bienvenue. Et c'est une journée difficile, exactement, nous dit le druide, parce que quand on se coupe
avec le sourire quand même.
Oui. Mais c'est une journée difficile.
Oui, à gérer pour certains coureurs. Attention à ne pas faire n'importe quoi, attention à ne pas trop se relâcher avant la journée de repos. Donc c'était aujourd'hui la 9e étape, la 2e et dernière dans les Pyrénées, entre Saint-Giron et Bagnères-de-Bigorre, ici où c'est l'Irlandais Dan Martin, 26 ans, grimpeur de l'équipe Garmin Sharp, qui s'impose devant son compagnon d'échappée Jakob Fuglsang. Le groupe des favoris termine à 20 secondes. Ces deux-là s'étaient isolés dans la dernière des 5 difficultés du jour. À 32 km de l'arrivée, ils ont rallié Bagnères au bout de la vallée là-bas victorieusement. Le groupe des favoris qui comportait Christopher Froome, évidemment, le maillot jaune, et l'ensemble des prétendants au classement général. Un grand battu aujourd'hui, Richie Porte, qui était dauphin de son coéquipier Christopher Froome ce matin au classement général et qui a pris une valise après sa belle performance hier vers Axe 3 Domaines. L'Australien de l'équipe Sky a lâché 18 minutes. L'équipe Sky qui était aux abonnés absente aujourd'hui et qui a donc laissé Christopher Froome, son leader, seul, totalement isolé dans la vallée, notamment à mi-course. La première partie de course a été totalement folle avec des accélérations à répétition des coureurs de l'équipe américaine Garmin Sharp, relayé par les coéquipiers d'Alberto Contador, l'Espagnol qui voulait se racheter de sa désillusion d'hier vers Axe 3 Domaines. Autres Espagnols à se mettre en évidence, les Movistar du duo Valverde-Quintana. Ils ont harcelé Christopher Froome pendant de longs kilomètres et Froome a distribué les tickets de sortie en prenant soin de faire du marquage sur les coureurs qu'il jugeait dangereux. Christopher Froome seul dans un groupe de 30 ou 20 coureurs prétendant au classement général, seul, mais qui n'a jamais paniqué et qui a très bien contrôlé. Tout le monde ne s'y est pas pris de la meilleure des manières, mais le bilan ce soir, c'est qu'il rallie l'arrivée, Christopher Froome, sans le moindre dégât chronométrique. Il a assis une nouvelle fois son poste de leader du classement général. Il est plus que jamais favori pour la victoire finale.
Alors, la défaillance de Richie Porte, Lucho, est-ce que tu as été surpris par la défaillance du lieutenant numéro 1 de Chris Froome, qui aurait pu faire d'ailleurs un leader de rechange? Il n'y a plus de leader de rechange dans l'équipe. Est-ce que tu as été surpris de cette défaillance?
Ah ben, je pense que je suis pas le seul à être surpris, parce que vu la performance de Richie Porte hier, on se demande comment aujourd'hui il a pu complètement, littéralement sauter. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il a fait très chaud, hier il a fait très chaud, les circonstances de course ont fait que hier, bon, il a quand même mené d'un train d'enfer Froome pour la victoire finale. Alors est-ce qu'il a trop travaillé ou a-t-il trop de pression en ayant été deuxième au classement général? Ça c'est possible aussi. Ou alors, parce qu'on l'a vu franchir la ligne d'arrivée, c'est la question que je me posais tout à l'heure, parce qu'on l'a vu passer la ligne d'arrivée en souriant. Alors est-ce qu'il n'a pas volontairement peut-être décroché aujourd'hui pour se dire qu'il reste encore 15 jours et en garder un petit peu sous la pédale? De toute façon, lui, moi je vise
et
pas
pour
le
faire retomber
moi,
la pas, pression de la moi, suspicion
moi je vise pas le classement général, donc je vais me donner pour Chris Froome surtout la dernière semaine, et me préserver, sachant que Chris Froome est quand même très très fort en ce moment, donc peut-être qu'il avait besoin de personne pour pouvoir protéger son maillot aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un point d'interrogation, le cas Richie Richie Porte sur le fait qu'il ait sauté aujourd'hui.
Cyril, surpris toi aussi? Franchement, bon, il n'avait montré aucun signe de faiblesse depuis le début de la saison, Richie Porte. Hein.
Oui, on peut toujours être surpris, sauf au Critérium International où il était leader du classement général et que c'était Chris Froome qui travaillait pour lui. Et quand il y a eu les accélérations, il avait fléchi dans la dernière étape et Froome était parti chercher la victoire d'étape et le classement général. Je crois qu'il faut se remettre dans le contexte de ce départ d'étape où il y a une équipe principalement, mais aidée également par d'autres formations qui avaient mis en route, c'était les Garmin. Les Garmin voulaient absolument faire tout sauter aujourd'hui. Ils l'ont fait, ils ont gagné l'étape. Donc ils ont eu tout à fait raison. Il y avait aussi les Europcars qui étaient très actifs. Il y avait quelques coureurs de la française des Jeux. Et puis il s'est passé un petit phénomène qui est peut-être passé inaperçu. C'est la chute de Peter Kenhoff,
coéquipier de Christopher Froome chez Sky.
Et un formidable descendeur, ouais. Hein, hier qui nous a montré
et
des choses étonnantes.
Les équipiers de Froome ont été obligés de mettre en route tout de suite. Et ils ont perdu 3-4 coureurs qui ne sont pas des spécialistes de la montagne, qui, une fois qu'ils sont chauds, à leur rythme, ça va passer. Et Richie Porte s'est retrouvé tout seul dans le porté d'aspect, dans l'obligation déjà d'assurer. Et à mon avis, il s'est mis un petit coup dans le rouge. Il n'a jamais pu se refaire. Et Froome s'est retrouvé tout seul. Mais vous inquiétez pas, il a eu beaucoup d'équipiers sur le reste de l'étape.
Très bien. Merci, Cyril.
Des équipiers au maillot Movistar.
Préciser aux auditeurs.
Okay. Oui, c'était au deuxième degré, mais on connaît le druide.
La société filiale.
Merci Cyril, merci Lucho, merci Fred. On vous retrouve
tout à
l'heure. Non, pas demain, ne rigolez, c'est pas fini. Hein, avant de prendre la route, il reste encore 2-3 heures d'antenne. Nous revenons dans quelques temps.